Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Salut Alexandre, comment
Salut.
Ça va ?
Bah écoute, ça va, il est pas trop tôt donc... Ouais. Ça va plutôt bien.
Ouais, désolé, je t'ai fait te réveiller ce matin. En plus, j'avais un peu la honte. J'étais quelques minutes en retard. Je te prie d'accepter mes excuses. Je t'ai expliqué la vie de papa solo. C'est pas toujours facile. Mais en tout cas, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Je suis hyper content. C'est Pierre David que j'avais eu la chance d'interviewer, qui nous a mis en relation, qui dirige l'Académie de la Haute Performance, à qui t'as un peu bossé, on en reparlera un petit peu plus, mais qui m'a dit, il faut absolument que t'ailles voir Alex, c'est comme ça qu'il t'a appelé. Mmh. D'ailleurs, on peut t'appeler Alex, ça te dérange pas?
Absolument, c'est plus court. Hein.
c'est comme moi aussi, les gens qui me disaient, est-ce que je peux t'appeler Bart? Je dis, non, hors de question. qui m'a dit, ouais, faut absolument que j'aille voir Alexandre, que t'ailles voir Alexandre pour si tu veux parler pentathlon, si tu veux parler retour de blessure, prépa mentale. Donc très content, écoute, de pouvoir te rencontrer aujourd'hui. Donc je suis hyper enjoué, voilà.
Ouais, tout pareil.
trop bien. Écoute, je t'avais dit, il y a une question traditionnelle sur le podcast que j'ai posée maintenant à plus de 170 invités, un peu plus. Bien qu'on va parler effectivement de tous les sujets que j'ai dit, c'est de commencer un peu par l'enfance, comprendre un peu qui t'étais quand t'étais plus jeune. Comment est-ce qu'on arrive aussi dans le pentathlon ? Et cette première question, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport ?
Mon premier souvenir de sport, donc si je dois remonter un peu quand même dans l'enfance, je pense que c'est un cross.
Okay.
Un cross en sixième, cross départemental Uxelles, donc c'est du scolaire, un mercredi. Et j'avais pas forcément de plus d'appétence pour ça, mais il se trouve que ce jour-là, je gagne dans ma catégorie, donc j'étais en sixième, quoi. Je me souviens même plus l'âge qu'on a, on va avoir 13 ans ou un truc comme ça.
Ouais, même 12, ouais, je
12,
pense.
Ouais. Ouais. Donc, et j'ai cette première victoire qui était totalement inattendue.
Okay.
Et je pense quoi, il y a eu un déclic, il y a eu un goûter à la victoire, goûter au fait d'être premier à un classement, d'avoir que des mecs qui sont derrière soi.
Ouais.
Et de le côté de dominer, parce que c'est ce qui s'était passé ce jour-là sur cette compétition. Et quelques semaines après, il y a le régionaux que je gagne également.
Ouais.
Et ouais, il y a eu le déclic de, il y a peut-être un truc à faire, quoi.
Ok, mais attends, si tu gagnes le cross départemental, déjà faut y être au cross départemental dans mes souvenirs, donc il faut quand même être dans les bons du cross du collège pour être un peu repéré dans la section.
Ouais c'est cross. Ça, mais j'étais à peine parmi ceux-là de base, okay. Parce que tu sais, t'as des redoublants,
ouais.
T'as des mecs qui faciles peuvent avoir un voire même deux ans de plus que toi et qui sont dans ta catégorie cross du collège et ils te démontent. Parce qu'ils ont 2 ans de plus que toi, et à 2 ans, quand t'es gamin, la différence physique, elle est quand même énorme.
Mmh.
Elle est quand même énorme. Donc non, j'étais pas plus que ça parmi les meilleurs.
Ok.
Enfin, c'est pas ça qui me remémore à l'esprit le plus, quoi.
Ouais.
Et mais j'ai ce jour-là, ça y est, j'ai eu ce petit déclic, quoi.
Et t'as pas été dégoûté par Le froid, la boue, potentiellement la pluie. Moi, je me souviens de mon premier cross départemental. Je l'ai fait tout mon collège et mon lycée, les cross aussi, tu vois. Au grand dam de mon entraîneur de tennis, d'ailleurs. Mais parce que je revenais malade à chaque fois, parce que à chaque fois, c'est au mois de novembre, décembre et tout, c'est les pires périodes. Moi, ça m'a un peu, ça m'avait un peu écœuré. Mais
C'est un peu comme tout, en fait. Quand tu gagnes, tout est facile.
Ouais.
Tout est facile. Tu peux faire le même effort, finir septième. Tu vas être au bout de ta vie, tu vas pas être bien, tu vas mettre du temps à t'en remettre. Alors que quand tu gagnes, t'as juste envie d'être le lendemain de retour à l'entraînement.
Ouais.
C'est ce que j'ai compris plus tard. C'est quand tu fais une belle perf, t'es content en fait et tu te dis, faut que j'arrive à garder ça parce que ça c'est trop bon comme sensation, comme sentiment d'être premier en fait.
Ouais.
Et je veux revivre ça, je veux continuer de pouvoir ressentir ça et t'as envie de retourner à l'entraînement.
Ouais.
Donc quand t'as la boue, quand t'as la pluie, c'est vraiment du c'est tu le perçois même pas quoi. Ouais. Tu fais même pas attention à ça.
Mais c'est dingue à quel point tu vois le cerveau humain, il retient que les bons souvenirs et il a tendance à vite oublier les mauvais, tu vois.
Ah, c'est clair. Ça c'est clair.
Donc c'en est la preuve.
Ouais.
Et t'as gagné beaucoup de cross comme ça ?
Scolairement, ouais, pas mal. J'en ai gagné pas mal scolairement et c'est ça qui m'a fait j'ai mis 2 ans je crois,
ouais,
avant de prendre ma première licence FFA.
Okay.
Donc là je me compare aux meilleurs, enfin vraiment aux meilleurs, pas des spécialistes parce que bon on a 14-15 ans, on n'est pas, mais je veux dire là moi j'étais en UXL, il y a eu l'UNSS, ouais. C'est que c'est le public,
ouais.
Et il y a quand même plus de monde. Donc à un moment donné t'es UXL, tu compares à des mecs où qui ont, il y a plus de confrontations.
Ouais.
Et donc bah à un moment donné la FFA ça représente l'UXL et l'UNSS.
Ouais.
Et donc tu compares à ces mecs là et là tu dis ok c'est ça mon niveau. Au début il y a eu tu sais c'est des départementales donc t'as des duels.
Ouais.
T'as toujours un ou deux mecs contre qui tu te bats. Après au régional t'en rajoutes un ou deux. Et globalement il y a eu ces duels là pendant 2-3 ans qui ont fini par enfin, je me suis fait je me faisais un peu démonter la première année où j'étais deuxième et très rapidement je suis passé premier que ce soit départemental ou régional.
Ok. On l'a pas précisé, mais t'as grandi dans quelle région ?
Normandie, dans la Manche.
Ouais. Ok. Ok. Hyper intéressant. Mais cet esprit de compète là, il vient d'où ? Il me semble que tes parents sont des grands sportifs.
Très sportifs. Ouais. Ma mère était en équipe de France jeune. Enfin, ouais. Non, elle était en équipe de France A.
Ouais.
Quand elle avait 14-15 ans.
Ok.
Donc, solide.
Ouais.
Quand on remet dans la perspective, c'est comme s'il y avait un collégien qui était en équipe de France qui partait au jeu, quoi. C'est ouais. Sensiblement la même chose. Et donc, elle rate la qualif olympique pour que dalle sur du 400 mètres 4 nages.
Ouais.
Pour
en
du
natation,
détail.
Du coup.
En natation, ouais.
Ouais.
Et pour du détail. Mon père était un touche-à-tout. Un bon niveau, un peu...
Nageur aussi plus,
ouais, nageur, mais handball, water polo, okay. Il a fait un peu de tout, même de l'athlée. Et c'est un peu là-dessus que je me retrouve, dans ce côté vraiment multidisciplinaire et touche à tout,
okay.
Avec un bon niveau partout. Mmh. Après, ce côté compète, je sais pas si c'est eux qui me l'ont directement donné. Parce que nous, on était... j'ai deux sœurs, une grande et une petite. On était obligés de faire du sport. Mais pas dans le sens, les parents veulent qu'on fasse de la compète. Ils veulent qu'on soit occupé, qu'on se dépense, qu'on ait tout ce qui est interaction sociale, apprendre à se connaître, ce genre de choses. Vraiment,
ouais.
C'est valeurs du sport, mais ce qui s'ouvre un peu à la vie, quoi, si on fait un peu l'analogie.
Ouais.
Et donc, on était obligé de pratiquer une discipline. Et j'ai vraiment fait tout. J'ai fait de la gym, du foot, du basket, handball,
okay.
Un peu de volleyball parce que mes frangines étaient dedans, mais vraiment bon, un tout petit peu. De l'athlétisme et un peu de natation parce que mes parents sont aussi maîtres nageurs. Et donc, j'ai passé mes après-midi, mes mercredis après, mes week-ends dans l'eau, en fait.
Ouais.
J'étais pas nageur, mais j'ai passé une bonne partie de mon enfance en piscine. Et donc, ouais, j'avais juste le côté fait du sport. Et c'est le fait d'en faire qui m'a fait prendre goût à la compétition.
Okay.
Et surtout d'avoir des aptitudes, tu vois. C'est pas comme... j'ai jamais forcé. En fait, à la base, je suis quand même plus talentueux que travailleur.
Ouais.
Et c'est assez intéressant parce que tu vois, en minime, quand les premières courses que je gagne, c'est vraiment pur talent, quoi. On s'entraîne pas quand t'as cet âge-là. Tu t'entraînes pas. et je passe dans des catégories supérieures et moi je garde mon côté je gagne tout seul, tu vois. Je fais pas d'effort, je gagne. Et là d'un coup t'as tous les mecs qui étaient même pas outsiders que tu défonçais, qui boum d'un coup ils remontent à toi, voire même te dépassent, et là tu fais waouh, il y a un problème. Ouais. C'est là que tu comprends, ok, va falloir mettre un peu de travail là-dedans, parce que à un moment donné les aptitudes talentueuses elles plafonnent, quoi.
Ouais.
C'est vraiment un combo des deux qui fait que tu peux être performant.
Et tu vois, avoir des parents qu'on titille un peu le haut niveau, titille d'ailleurs, je mets un peu trop de, comment dire, d'eau dans mon vin, mais enfin qu'on vraiment vécu le haut niveau, est-ce que ça aide, tu vois, justement à se poser la question du process, tu vois, ok, je gagne plus. Maintenant, faut se rentraîner. Le process, c'est de rejoindre un club, de faire peut-être un petit planning d'entraînement, de s'entourer d'entraîneurs, de compétences. Tu vois, est-ce que ça intervient quand même à ce moment-là, tu vois, ou parce que moi, je sais que mon père en sport études tennis, tu vois, il y connaissait rien. Tu vois, et encore, bon, c'était le début de l'internet, donc il commençait à aller chercher, le savoir commençait à être un petit peu disponible sur un peu à droite à gauche. Puis on était, enfin, dans l'ère. Il commençait à avoir un peu une ouverture là-dessus, mais pour lui c'était, il découvrait autant que moi, tu vois. Est-ce que là, tu vois, ça aide un peu d'avoir quelqu'un qui t'oriente tout de suite et qui te dit, tiens, ça peut, ce qu'il faut faire c'est ça, quoi, c'est aller dans un club, trouver un.
J'ai pas directement d'exemple là-dessus. Je me suis jamais vraiment posé la question.
Ouais.
Parce qu'en fait, j'ai commencé vraiment à être sérieux dans l'entraînement à partir du moment où je suis rentré vraiment dans un cadre fédéral, le pentathlon moderne. On pourra en reparler plus tard.
Ouais.
Avant, je suis vraiment dans le, ça reste du plaisir.
Ouais, loisir.
Okay. Ça reste vraiment du plaisir, même si j'ai envie d'être bon. Quoi qu'il arrive, j'ai envie d'être bon. Je suis jamais parti sur une compétition auquel j'étais pas prêt, ou je savais que j'allais. C'est soit je viens et je sais que je peux gagner, soit j'y vais pas. Enfin,
ouais,
honnêtement,
sûr.
Moi, je prends le plaisir, ok, dans l'instant. Mais si à un moment donné, je peux pas jouer les avant-postes, j'y prends pas de plaisir, tu vois. Donc après, ouais, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Joël Becker, qui est malheureusement décédé depuis quelques années, qui était un mec qui était dans l'athlétisme, et qui a eu des aptitudes en moi. Alors moi, je faisais du javelot.
Okay.
Alors en athlétisme, en fait, j'aimais pas trop courir à ce moment-là. J'aimais pas, ça me saoulait de courir tout seul. Et je faisais du javelot, donc j'étais pas mauvais. Je balançais à 55 mètres en cadet.
Ah ouais, ça commence à faire.
Ouais, ça commence à faire. C'était pas trop mal. Alors j'étais un gringalet, tu vois. J'arrivais sur les concours, les mecs ils se foutaient de ma gueule parce que t'avais que des golgottes, tu vois.
Ouais.
Moi j'étais une crevette, tu vois. Enfin vraiment une crevette. Et ce mec-là est arrivé et il a vu en moi un potentiel, tu vois. Il avait vraiment vu quelque chose. Et il venait d'un club parisien, il arrivait en Normandie, et c'est lui qui a instauré un peu en fait l'entraînement, c'est pas n'importe quoi. T'as une logique. Donc j'ai commencé à faire un peu de renforcement musculaire, un peu de muscu, mais tu sais, très léger, parce que j'étais adolescent, donc tu fais pas n'importe quoi, mais juste en mode il y a un programme à suivre.
Ouais.
Et on va faire le programme, parce que pour progresser à un moment donné, tu peux pas faire n'importe quoi. Et ça m'a donné ce goût de ok, là il y a un programme à faire, donc faut que t'arrives à l'heure pour faire le programme.
Ok.
T'as une rigueur dans le truc. Tu peux te marrer, mais quand t'es dans l'entraînement, il y a cette rigueur, ce sérieux à avoir. Et ça m'a mis un pied dedans. Ça m'a mis un pied dans le truc. Et moi qui est quand même assez scolaire de base, j'aimais bien avoir. Ok, j'ai ça à faire. Tac, okay. Tac, tac. Faut que je remplis les cases. Mais s'il me le dit de faire, c'est pour mon bien. Et donc j'ai cette rencontre avec cette personnalité, parce que c'était un mec quand même assez exceptionnel. C'est un ancien du Raid.
Ok.
Donc, t'es un mec qui parle pas, qui a une aura autour de lui. Il est juste imposant, en plus. Alors, physiquement, il était déjà costaud, tu vois, mais il y avait un truc, il arrivait, tu faisais, waouh, c'est qui lui?
Ouais.
Déjà. Et je pense qu'on a tous un peu c'est une personnalité comme ça. Dans
ouais, l'importance des mentors, ouais.
Un peu un mentor, tu vois. Ouais. Et il m'a un peu formé pendant 2-3 ans. Alors, malheureusement, il n'y a pas du tout eu les attentes. Enfin, les résultats, du coup. Il n'y a pas du tout de résultats.
Ok.
Alors j'ai régressé plus que progressé.
Ok.
Mais c'est vraiment pas grave, parce qu'au final j'aurais jamais balancé le javelot à 80 mètres et fait les jeux, tu vois. Donc mais il y a ce côté vraiment, c'est une rencontre qui fait que derrière tu te rends compte plus tard, mais qui fait grandir, quoi.
Ouais, il t'a donné goût au process, il t'a donné goût à l'entraînement, il t'a donné goût à la progression. Et ouais.
Puis il s'occupait de champion, tu vois.
Ouais.
Il m'avait parlé, lui il était plutôt, il entraînait les décathlètes.
Ouais.
Ou décathloniens. Ouais. Et parce qu'on dit pentathlète, c'est pour ça.
C'est ça qui est une petite guéguerre là-dessus. Mais...
Et donc il y avait ce côté très polarisé, quoi, très très polyvalent.
Plutôt. Ouais. Ok.
Très polyvalent et c'était vachement cool, quoi. C'était vachement cool.
Mais d'ailleurs, au javelot, ce qui compte, c'est pas forcément le muscle, non, c'est l'amplitude du bras finalement qui est importante.
C'est l'amplitude la bras, et la vitesse d'exécution.
Ouais, ouais.
La vitesse d'exécution, c'est vrai qu'on a tendance à voir des mecs plutôt costauds, mais quand on regarde le recordman du monde, Jan Zalesny.
Ouais.
Alors oui, effectivement, tu le mets à côté de moi, tu vas dire, ok, il y en a un qui est plus costaud que l'autre. Mais globalement, c'était un mec plutôt en grande amplitude, mais souple et l'axe des épaules. Un super droite gauche à la fin ultra vite et puis la génération les mecs ils ont des bras comme des cuisses
ouais
il y en a encore un petit peu, mais globalement c'est plus la vitesse d'exécution, quoi, j'ai l'impression.
Ouais, et l'amplitude du mouvement, ouais, que tu peux mettre avec ta souplesse d'épaule. Ouais. Et comment est-ce que tu tombes dans le pentathlon, toi, dans tout ça?
Je suis au lycée.
Ouais. Alors,
je suis passé en UNSS entre temps. Ouais. Et je reçois un parce que j'étais délégué de ma classe et c'est moi qui allais chercher le courrier tous les jours.
Ok.
Et je reçois un truc à mon nom, une lettre à mon nom avec le cachet olympique dessus. Et je fais juste ça. Je bug sur le cachet olympique. CNOSF. C'est quoi ce truc? J'ouvre et il y a.
Tu sais ce que c'est au final?
Ouais, bah moi je sais. Tu vois. Enfin moi, en grandissant, c'est les jeux. Hein. C'est les jeux, c'est je me lève en 2008, je me lève pour voir la finale du 100 mètres nage d'Alain Bernard avec mon père, on a les yeux comme ça, on regarde 40 secondes de course, on se regarde, on fait, et puis on se retourne se coucher, tu vois, mais c'est des petits trucs, c'est genre, c'est les jeux. Ouais. C'est les jeux, évidemment, c'est tous ces grands sportifs qui m'ont fait rêver, qui m'ont donné l'amour de, enfin, vouloir être à leur place. Et je me suis perdu dans mes trucs.
Non mais ouais, je te disais, comment est-ce que t'es arrivé dans le pentathlon?
Ouais, et donc voilà, donc le cachet, je sais ce que c'est.
La lettre.
Le sigle, je sais, je reconnais. Et j'ouvre le truc et je vois un petit c'est pas une tracte, mais c'est un petit fascicule m'expliquant le pentathlon et me proposant de participer à des tests en course natation pour rentrer dans un pôle.
Ok.
Et après, à ce moment-là, il disait objectif Rio. Bon, là, ils vendaient un peu du rêve parce que on est en 2010 et en 6 ans, bon, c'était compliqué, tu vois. C'était un peu compliqué, mais
sachant que toi, sur les 5 sports, il y en a que 2 que tu pratiques réellement, quoi.
Ouais, la course, j'en fais, mais je suis un peu flemmard à ce moment-là.
Ok.
Donc j'ai 17 ans. Je fais beaucoup de handball à ce moment-là.
Ok.
Je fais beaucoup de handball et natation, j'en fais. Je sais nager.
Tout petit, mais
je sais nager, mais je me suis jamais entraîné pour. Mais je vois ça et je me dis. Ben en fait là on me propose directement de faire ce que j'ai toujours rêvé de faire, c'est-à-dire du sport toute la journée, dans un cadre où c'est ton but de faire du sport, c'est pas juste okay. Tu vas à l'école et après tu fais ce que tu veux. Non, ouais. c'est ça. Il faut que tu fasses et que. Et je me dis ben go quoi, babos. Donc là on doit être en mars ou en janvier février.
Ouais.
Et je me suis dit là il y a un test, il y a 100 mètres nage libre et 1000 mètres en course. Il se base sur le recrutement des deux épreuves énergétiques du penta. Et je me dis, je vais m'entraîner comme une compétition pour ce jour-là. Donc, je me suis entraîné en natation pendant 3 mois.
Ouais.
Et je me suis entraîné un petit peu en course avec des séances un peu spécifiques. Et donc, pour un pseudo non-nageur, je nage 1-2 en grand bac, en grand bassin, sans combinaison.
Quand même.
et je cours 2-36 ce jour-là, au minimum.
Ok. Ouais,
costaud. Et je fais partie des plus vieux à postuler, parce que à ce moment-là j'ai 17 ans, je vais sur mes 18.
Ouais.
Et globalement ils recrutent plutôt 14-15 ans.
Okay.
Parce que t'as des épreuves techniques qui sont un peu plus longues à acquérir, mais c'est surtout, ils se basent voilà sur les épreuves énergétiques, parce que bah t'as des mecs, t'auras beau les faire nager toute leur vie,
cette aptitude tu peux pas,
tu l'as pas, tu vois. Ouais. C'est très compliqué. Et moi tout de suite
toute cette mémoire elle se bosse dans l'enfance.
Ouais,
en fait, tu vois, et si tu l'as pas eu dans l'enfance, et tu l'auras jamais,
ça
quoi.
Peut être vraiment plus long. Et donc ils se basent là-dessus, et puis bah globalement c'est mes deux épreuves fortes, quoi. Et donc là bah on me dit avant même que rende officiel, je franchis la ligne, et puis j'ai deux personnes qui viennent me voir. Il y a Jean-Marc Bartoli,
okay,
du RMA, de mon club dans lequel je m'entraîne maintenant, qui tout de suite me dit viens là toi, et il m'expose le truc. Donc je signe au club qui est à l'époque le Lagardère.
Ouais.
Et il y a le coach national de l'INSEP qui me dit bon bah voilà, où est-ce que tu veux aller, en gros c'est où est-ce que tu veux aller dans un pôle, quoi.
Ouais.
Parce que d'après ce que tu viens de faire, il y a pas trop de problèmes pour que tu rentres. Et donc à ce moment-là, je choisis Font-Romeu.
OK.
Dans les Pyrénées, qui est assez connu quand même.
Bien
pour,
sûr, il y a
pour les sportifs, pour les sportifs,
les triathlètes,
les coureurs de demi-fond et fond, ouais. Biathlètes, les nageurs, enfin c'est vraiment un pôle
c'est un peu la mecque en France de des sports d'endurance quoi.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Quand même beaucoup. Ouais.
Et donc je vais là-bas.
OK.
À la rentrée septembre 2010,
c'est au fin fond des Pyrénées, si vous voulez aller voir et que vous voulez y aller depuis Paris en train, c'est un enfer, il y a 12 heures de train depuis Paris.
C'est pas évident, mais
c'est un peu c'est le là où tout se passe quoi, c'est le cœur du volcan.
Et c'est exactement pour ça que je voulais y aller parce que
tu voulais te couper du monde.
Non, même pas. En fait, j'étais un fan de sport quoi.
Ouais, tu voulais
fan de sport et je connaissais ça, je me suis vite fait intéressé et je me suis dit donc en fait si je vais là-bas, je peux rencontrer les meilleurs. Tu vois, parce que je suis quand même la course à pied et tout. Je me dis, je peux aller là-bas, je peux voir les meilleurs. Mais je vais là-bas, quoi. Alors qu'on m'avait proposé avec le pôle d'Aix-en-Provence, qui est quand même plus ensoleillé, qui est quand même plus facile à vivre et tout. Et, et bon, ça, à ce moment-là, je le savais pas trop, tu vois. Mais je savais surtout pas que j'aimais pas la neige. Sauf qu'il y en a pendant 5-6 mois là-bas.
OK. Ah, donc,
bon, c'était pas grave, mais c'était une expérience, quoi. J'ai vécu ce que c'est que de vivre à la montagne.
Ouais. Qu'est-ce que tu rencontres qui t'inspire là-bas? Parce que j'imagine, tu arrives quand même, tu fais le pari, donc tu reçois une lettre. Moi, j'essaye de me mettre à ta place. Ah, tu reçois une lettre. T'as un bon niveau. T'as un bon niveau en course à pied et t'as un bon niveau en natation, mais le rêve olympique, il peut encore être quand même très loin, tu vois. Tu reçois une lettre pour un nouveau sport complet. On te dit bon, écoute, là t'es prêt. C'est un espoir, en gros.
Ouais.
Tu vas t'entraîner avec les plus grands champions pendant 6 ans intensément. T'as dit ouais, c'est Poudlard, mais j'imagine ça quoi. Mais
c'est un rêve. Mmh. C'est un rêve. C'est en mode de moi. Mon rêve, c'est de
changer
les jeux.
Quoi.
Mon rêve, c'est de faire une équipe de France.
Ouais.
Comment je fais quand...
On t'aurait proposé.
On te donne un truc. Tu dis ok, bah sois bon et voilà.
On t'aurait proposé. Non mais t'aurais reçu cette lettre et qu'on t'aurait dit, je sais pas, vous êtes pas au courant, mais votre sport de prédilection c'est la boxe et vous devez absolument faire de la boxe. Tu l'aurais fait aussi.
Je pense que oui.
Ouais.
Ah ouais.
Non, quel que soit le sport, t'y serais allé quoi.
Ouais, je pense.
Ok.
Après le fait avec le penta, il y a vraiment ce côté. Bah il y a 5 disciplines.
Ouais.
Dont
2 que tu connais très bien quoi.
Ouais, mais ouais, enfin. Moi, je te dis, je nageais pas, je m'entraînais pas. C'est juste que je savais évoluer dans l'eau, on va dire.
Ouais.
Ce qui m'a permis de progresser très, très vite. Mais y a ce côté, tu sais, à un moment donné, quand t'es en difficulté dans une épreuve et que t'en as qu'une, enfin, je pense souvent aux nageurs, il y a des fois, moi, dans l'eau, je suis pas bien. Pendant un certain temps, je suis pas bien.
Ouais.
Bah, à côté, j'ai quand même 4 autres épreuves dans lesquelles je peux m'exprimer, tu vois.
Ouais.
Bon, bah, un nageur, quand il est pas bien dans l'eau,
c'est fini.
Il va 2 fois par jour quand même, tu vois. Et là, tu peux vite péter un câble.
Ouais.
Tu peux vite péter un câble. Hein. Ça peut être très très dur. Donc le fait d'avoir 5 épreuves, ça m'a permis de me dire, ok, dans tous les cas, je vais m'éclater quoi.
Ok.
Ça va être vraiment cool. Mais franchement, moi mon rêve c'était l'équipe de France.
Ouais.
Avant les Jeux, c'était porté. T'es à l'époque, c'était Adidas bleu blanc rouge avec les bandes et tout.
Ouais.
Enfin, laisse tomber. Moi, je rêvais de ça quoi. Et je l'ai eu. Je l'ai eu. Donc franchement, non, c'était n'importe quoi, je l'aurais vu.
Mais tu donnerais quoi comme conseil à un enfant ou à un jeune ado, tu vois, qui peut avoir entre 13 et 16 ans, qui a ce rêve, tu vois, brûlant, mais qui a pas nécessairement trouvé son sport, tu vois. Et je pense que un des trucs moi qui revient souvent avec les interviews, c'est il y a une partie de chance quand même, il faut trouver son sport.
Ouais.
Et la chance fait partie du talent. Je dénigre surtout pas la chance. Il faut la provoquer, il faut aller la chercher. Toi, t'as reçu cette lettre, t'y es allé. Tu te l'es donné. Tu donnerais quoi comme petit conseil à ces enfants qu'on se rêve dans la tête et qui savent pas par quel chemin se prendre
Essayer. Mmh. Essayer plein de choses. Moi, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de sport au final. Même si j'ai pas été licencié dans plein d'autres, je les ai un peu essayés.
Ouais.
Et en fait, si tu fais vraiment si tu zoom out un peu, tu peux voir que bah il y a des sports de combat, il y a des sports collectifs, il y a des sports individuels énergétiques, il y a des sports individuels de précision.
Mmh.
Et déjà
l'escrime
c'est un sport de combat.
Ouais. Ouais, bon, j'ai jamais duel.
Moi j'en ai pas fait de mon propre gré parce que ça rentrait dans le programme du penta et voilà, c'est tu veux faire du penta, tu vas faire de l'escrime point barre.
Ouais.
Mais je veux dire, si à un moment donné tu peux entre de 12 à 16 ans, t'as le temps d'essayer genre un sport co, une épreuve énergétique, un sport de combat, et tu vas vite voir, ok, j'aime pas la confrontation.
Ouais.
Direct, ok, sport de combat, t'oublies. J'aime pas me faire mal sur la douche. Ok. Par contre, j'aime bien jouer. J'aime bien être avec des gens. Ok, bah oriente-toi vers le sport co. Sport co, le football, tu cours énormément. T'aimes pas trop l'énergétique. Bon, c'est peut-être pas celui-là. T'aimes plutôt le statique. Bah, tu peux éventuellement partir sur du volleyball, tu vois. Enfin, et après jouer avec ton physique intrinsèque, tu vois. T'es grand, ouais. T'es petit, t'as un centre de gravité bas, t'as des grands membres. C'est quoi ton là où tu pourrais avoir le plus de chance, tu vois.
Ouais.
Et tout de suite, tu peux comme assez plus facilement t'orienter. Et après, de toute façon, c'est là où tu t'éclates le plus, hein.
Ouais, c'est sûr.
Parce que t'as beau avoir un physique pour faire telle épreuve, si tu n'aimes pas cette épreuve-là.
Non, mais clairement, ouais.
Tu vas t'éclater au début, parce que t'as le côté un peu victoire, t'as le côté machin, si t'es compétitif. Mais à un moment donné, tu vas plafonner. À un moment donné, c'est du moyen terme, voire du court terme. Et après, tu vas vite. Bon, en fait, tu vas faire un truc qui t'échappe parce que t'aimes pas ça, quoi.
Ouais.
Et si quand t'es bon, après, tu te dis, bah, en fait, ça y est, il y a des gens qui me mettent la pression parce que, tu sais, t'as tes parents éventuellement ou le milieu familial qui te dit, ouais, bah, vas-y, fais ça, t'es à fond dedans, t'es bon et tout. Et toi, t'as envie de rendre fier ces personnes-là. Tu te dis, en fait, ils veulent me voir réussir et je peux pas les décevoir, et donc tu te retrouves fermé là-dedans. En fait, tu te retrouves dans un piège à devoir faire un truc qui au final te plaît pas tant que ça, quoi.
Ouais.
Donc faut faire aussi attention. Mais globalement, j'ai fait un peu une digression, mais
vas-y, on est là pour ça.
Essayez vraiment des choses, essayez plein de trucs.
Ouais.
Parce qu'il y a vraiment un milliard de sports et il y a moyen de vraiment s'éclater, quoi.
Ouais. Et ça a fonctionné pour toi, donc il y a pas de raison que ça fonctionne pas pour d'autres.
Ouais,
quoi.
C'est clair. Et puis ouais, il y a un autre truc, c'est le sport scolaire est incroyable pour ça. C'est-à-dire que l'UNSS, tu prends une licence.
Ouais.
L'UNSS, c'est la deuxième fédération française, hein.
Ok.
Après le football. Ou troisième. C'est top 3, parce que en fait, tu prends une licence et c'est une association sportive, quoi. Et tu peux faire tous les sports.
Ouais,
donc le sport UNSS ou le sport scolaire en général, c'est incroyable, c'est vraiment une vraie chance. Et
c'est pas assez connu, hein. C'est des dispositifs qui sont très peu connus. Notamment, tu vois, si tu vas dans les quartiers, dans tout ça, les gens connaissent très peu, quoi. Donc ouais. C'est dommage.
Et je voulais dire un autre truc à propos de ça.
Ça va te revenir, mais. Et le gamin rêveur qui arrive à fond romeu.
Ah oui. C'était ça. C'est le fait que même quand, enfin moi je viens d'une très très moyenne ville, tu vois, c'est Coutances, là où je viens, c'est 10 000 habitants, ouais. Ce qui me paraissait énorme quand j'étais gamin. Maintenant, tu vois ce qu'il y a à côté, tu vois Paris, tu vois, enfin c'est ridicule. Et pourtant en fait, bah c'est pas parce que t'es isolé dans un petit village, dans une petite ville, qu'en fait tu peux pas y arriver.
Ouais.
Et ça, je trouve que c'est vachement important. Et l'UNSS le permet. L'UNSS fait qu'au début, bah voilà, tu fais d'abord ton district, d'abord ton collège, ensuite tu fais ton départemental et boum, boum, et tu peux te confronter et tu te rends compte que bah t'es de Coutances, personne ne sait où c'est, mais en fait tu peux gravir les échelons. T'es pas obligé d'être tout de suite dans un endroit où il y a tout. Et je trouve que ça, c'est important de se dire que bah c'est pas grave, je peux y arriver, même si ma ville il y a pas la piste, même si ma ville il y a pas ça, si je veux je peux me donner les moyens et je peux y accéder. On sait pas s'il va y avoir la réussite derrière, mais faut pas se fermer en disant bah moi je suis pas au bon endroit, tu vois.
Ouais, je pense que c'est un truc qui peut, enfin les êtres humains sont très doués pour se trouver des excuses et c'est clairement clairement quelque chose qu'il faut éviter, et surtout que le petit enfant rêveur il doit vivre, quoi, il doit s'exprimer. Et c'est qui les rencontres qui t'ont marqué là à Font-Romeu, où t'arrives dans cette espèce de volcan rempli de sportifs, j'imagine tu rencontres un peu tes idoles entre guillemets, tu vois, j'aime pas trop ce mot, mais
ouais, si vas-y, il y en avait. Je sais plus exactement à quel point je les ai rencontrés, mais je sais que c'était un milieu où il y avait beaucoup Bob Tari.
Ouais.
Il y avait Mehdi Bala.
Ouais.
Il y avait Johan Koval.
Ouais, il y a le gratin de...
Ouais, le gratin du demi-fond français, quoi, qui était là-bas. Et je me souviens, enfin, il y avait beaucoup de nageurs. Ouais. Pour moi, il y avait beaucoup, surtout beaucoup de nageurs étrangers. Et je les connaissais pas pour le coup, parce que c'était pas ma discipline, mais des fois, il y avait des mecs qui arrivaient. En plus, ma première année, j'étais, dans ce qu'on appelle la tour. Parce que, en fait, ouais. J'étais en STAPS. Il y a un grand bâtiment qui est dans le Creps, parce qu'il y a un lycée. Donc, les lycéens ont leur dortoir et il y avait un grand bâtiment pour les stagiaires, en fait.
Okay.
Et ma première année, je suis logé là-dedans. Et donc, c'est-à-dire que je côtoie tous les stagiaires.
Okay.
Donc, globalement, c'est des sportifs dans des structures assez professionnelles, quoi. Donc de haut niveau. Mmh. Et il y a des mecs, alors moi, je les connais pas, et on me dit, bah lui, il est champion olympique ou record... Non, il était recordman du monde du 50 papes, tu vois.
Moi, ouais.
Enfin, je sais pas, je le connais pas, ouais. Mais je trouve ça incroyable. Le mec sur 50 papes, c'est le mec qui a été le plus rapide, tu vois. Il y a pas un mec qui a été plus rapide que lui, et il est là. Moi, je suis là. Enfin, j'ai 18 piges. Je suis, oh, incroyable, quoi. Et il y avait aussi le côté, il y avait un gros pôle de natation.
Ouais.
Et il y avait, à l'époque, il y avait trois nageuses dans le groupe-là. C'était plutôt des filles, dans ce groupe-là, qui avaient fait les jeux, quoi. Enfin, ouais. Pour moi, c'était, je les regardais, c'est des olympiennes, quoi.
Ouais.
Elles ont fait les jeux. On était en 2010, du coup, et je lui dis, bah, il y a 2 ans, elles étaient à Pékin, quoi.
Ouais.
Je trouvais ça ouf. Et puis, à Font-Romeu, dans le bassin, sur le côté, t'as des bannières olympiques avec le nom des personnes qui sont du Creps, qui ont fait les jeux. Et ça remonte de, donc, t'as Sydney, Athènes, t'as tout, il doit y avoir Londres, enfin, Londres. Il doit y avoir Tokyo maintenant, et t'as les noms des gens. De Font-Romeu qui s'entraînent ici, c'était les nageurs, et tu vois tous les noms, tu dis putain, ouais. Et ces filles là étaient là, quoi, et je dis, putain la vache, c'est le niveau, quoi. Enfin, moi j'étais dès que tu me parlais de performance de médailles européennes, mondiales, olympiques, bon, j'avais des étoiles dans les yeux, quoi.
Ouais. Et comment tu fais pour progresser hyper vite? Tu vois, t'as un objectif à 6 ans. Là, t'arrives, il y a 2 sports que tu connais pas.
Ouais,
trois sports, pardon, ouais. Que tu connais pas. C'est quoi le programme pour attraper tout ça? Alors, d'ailleurs, pour faire un petit résumé quand même, pour le pentathlon, parce qu'on l'a toujours pas précisé.
Ouais.
Je sais que ça te saoule un peu, parce qu'à chaque fois, il faut l'expliquer. Mais grosso modo, c'est, vous avez un 200 mètres nage libre.
Ouais.
Ensuite, il y a une espèce de tournoi d'escrime où au début, c'est des poules et ensuite, c'est élimination directe.
Ouais,
voilà.
C'est complexe, hein.
Ouais, ensuite.
Dit comme ça, c'est compliqué, mais.
Bon, c'est un peu comme la Coupe du Monde, quoi. Tu vois,
ouais,
de football, des poules, et puis après, élimination directe. Ensuite, l'équitation, donc, c'est un saut d'obstacle sur lequel vous tirez au sort le parcours, donc vous le connaissez
le
pas.
Le cheval, ouais.
Le cheval.
Ouais.
Et le parcours aussi, non?
Non, le parcours, oui, on fait une.
Le parcours est,
on fait une reconnaissance,
okay.
Une reconnaissance à pied. Soit ouais. La veille, soit le jour de la compétition, suivant du programme.
Ok. Ouais, tu peux me corriger si je le fais mal. Maintenant, du coup, la dernière version, c'est que du coup, les deux derniers sports, la course à pied et le tir, sont rassemblés dans ce qu'on appelle un laser run.
Ouais.
Si on peut faire une métaphore, c'est un peu un biathlon. C'est-à-dire que vous courez, vous tirez, vous courez, vous tirez. Peut-être tu peux préciser peut-être rapidement la séquence.
Alors maintenant, il y a 5 phases de course.
Ouais, 5 phases de course et 4 phases de
600 mètres.
Ouais, de
600
mètres.
600 mètres. Et entre chaque 600, il y a une phase de tir.
OK.
Où il y a une cible à atteindre 5 fois.
OK. Et pour rapidement comment ça se, pour comprendre rapidement comment ça se présente, on pourrait en reparler pendant des heures, mais le pentathlon change tous les ans. Mais du coup, la dernière version est pour ceux qui nous intéressent, ce qui nous intéresse un peu, c'est aussi de parler de Paris 2024. C'est que du coup, les 3 premières épreuves, donc nage, escrime, équitation, ça vous permet de gagner des points. Et en fonction de ce classement à points, ça va fixer l'ordre du départ et le temps de retard du départ pour la dernière épreuve. Et en gros, celui qui termine en premier, la dernière épreuve, ouais. A gagné.
C'est une poursuite.
Ouais, c'est une poursuite.
C'est la poursuite du biathlon.
Ouais. Ouais, j'espère que c'était clair dans les explications.
Ouais, c'était relativement clair.
À peu près.
Tu veux faire une mise à jour, maintenant tout ça se fait en 1h30.
Ouais, exactement. Alors qu'avant, c'était une épreuve par jour.
Alors ça, c'était au tout début. Voilà. Ça, moi, j'ai même pas connu. C'était une épreuve par jour. Mais bon, t'imagines bien que ça fait une semaine de compétition. Un peu redondant et c'est compliqué, tu vois, t'arrives au jeu.
Une épreuve très courte.
Ouais, t'arrives au jeu, en fait, le CIO a dit, elle est chiante, votre épreuve, une épreuve par jour, enfin. Donc, du coup, on a commencé à condenser tout ça, au bout de certains temps, ça finit par être sur une journée.
Okay.
Et maintenant, parce que le CEO était toujours pas content, parce que c'est, maintenant les jeux c'est télévisuel, il faut plaire, il faut que ce soit visuel. Et donc, bah, on est tout ça en une heure et demie.
Ok. Ouais, donc ça devient là où, enfin, ça devient du coup une vraie épreuve où la dépense énergétique était vraiment gérée, le stress aussi est vraiment à gérer parce que vous avez plus de temps faible, quoi.
Ouais.
Ouais, plus de repos. Ok. Bon bah, j'espère qu'on l'aura bien précisé. Et pour votre culture générale, les grands pays. Alors la France est vraiment une grosse nation montante.
Ouais, ouais, ouais.
Et historiquement, j'ai vu que la Suède et la Hongrie avait gagné pas mal de médailles olympiques.
Alors la Suède, je pense que c'était au tout début du patathlon moderne.
OK.
Quand c'était réservé aux généraux, enfin aux officiers du moins.
OK, d'accord. Officiers mais aujourd'hui
parce que c'est un sport militaire et ça s'est popularisé et démocratisé un peu plus tard, mais au début c'est vraiment les officiers et donc je pense qu'à ce moment-là les Suédois font partie des grosses nations.
OK.
Mais les Suédois on les voit plus trop.
Okay.
Donc c'est plutôt, je dirais, Corée, Égypte, Hongrie. Hongrie, historiquement, c'est très très fort.
Okay.
Hongrie, les Russes, on connaît les raisons. Là, bizarrement, on les voit un peu moins. Et, et France, ouais.
Okay.
Après, il y a quand même, chez les filles, Grande-Bretagne.
Okay.
Ouais, gros gros niveau. Chez les mecs, c'est gros niveau, sport, mais c'est un peu moins condensé maintenant. Parce qu'il y a quand même un champion olympique qui est anglais. Donc c'est pas anodin, mais je trouve que c'est un peu moins fort en
termes de densité.
Ouais,
peut-être.
Tu vois, il y a vraiment deux mecs qui étaient au-dessus et deux trois mecs et alors qu'il y a des nations, un Français, tu vois, globalement un Français. Enfin moi j'étais sixième Français cette année. Je fais quand même des finales quoi.
Ouais.
Donc ça prouve le niveau et ça tu peux l'avoir en Corée, en Égypte. C'est quand même des grosses nations, quoi.
Ok. Bah, écoute, merci pour cette petite touche culture. On l'aura précisé, on l'aura fait vite fait et plutôt de manière efficace. Mais ouais, du coup, comment est-ce que tu fais pour apprendre trois disciplines avec un objectif de 6 ans, tu vois? C'est quoi le guide? C'est quoi le playbook?
Alors, bah, moi, j'étais très motivé. Je prenais énormément de plaisir de par la structure dans laquelle j'étais. En fait, c'est moi, je rêvais d'être ce mec qui doit aller en cours parce que t'as le double projet, tu peux pas. Enfin, on parle de patathlon moderne, tu vois. Je sais que je gagnerais pas ma vie directement avec ça ou de manière très compliquée.
T'en as conscience dès le début?
Ouais. Moi, bah j'ai une petite anecdote, enfin juste une phrase qui m'avait marqué, mais m'avait fait plus rire, tu vois. Mais c'est Jean-Marc Bartoli, t'es la personne qui m'a recruté dans le club là, qui m'avait dit, j'avais pas commencé. Hein. Il m'a dit, si un jour t'es champion olympique, tu rouleras en Laguna.
Ok.
Et là, tu dis, ok. D'accord.
Et si t'es juste olympien, ça sera en Clio.
Ne fais pas ça. En gros, c'est ne fais pas ça pour la fame et l'argent, tu vois.
Ouais.
C'est, mais ça, honnêtement, pas du tout ma motivation. Pas du tout ma motivation première. Après, pour répondre à ta question, là, on retrouve, je pense, mes aptitudes intrinsèques et talentueuses, tu vois, de vraie éponge. Je suis une éponge, tu me dis ça, ok, je vais faire ça. Je peux pas forcément te dire que je comprends pourquoi tu me demandes de le faire. Mais je vais le faire. Et après, je vois qu'il y a le résultat, je me dis, ah bah, c'est comme ça qu'on fait.
Ok.
Et donc, bah, très très rapidement, tu vois, même en natation, je me souviens, première compétition, c'est un 200 mètres nage libre, je fais 2,09. Donc, en soi, c'est pas ouf, hein. Mais moi, j'avais jamais vraiment nagé de ma vie, tu vois. Donc, ça fait 3 mois que je nage, 2 mois et demi, 3 mois, je fais 2,09. Et on fait un débrief à la fin de la compétition avec mon coach. Il me fait, bah, moi, en fin de saison, je voulais que tu nages moins de 2,10.
Ok.
Et en 2 mois et demi, je suis à 2,9. Et un an après, je suis à 2,0.
Ok.
Donc, juste le travail. Ça, c'est juste le travail. Et après, il y a l'équitation qui est quand même, plus j'ai de recul et plus je me dis que c'est quand même assez ouf. C'est que, donc, j'ai jamais monté à cheval.
Ouais.
Je commence à 18 ans. Je monte une fois par semaine et encore.
Okay.
On va dire 3 fois par mois. Et on m'envoie sur un parcours 5 mois plus tard.
Ok.
Sur un parcours d'équitation. Avec des cotes, alors je me souviens plus des cotes, mais on va dire entre 80 cm et 1 mètre.
Ouais.
Plutôt 80 cm que 1 mètre, mais c'est un parcours d'équite, quoi.
Mais c'est déjà ça, ouais.
Et je le fais. Et après, c'est en mode, c'est parti, quoi. Mais quand je parle à des cavaliers, ils en reviennent pas.
Ouais.
Ils en reviennent pas. parce que en plus moi ma toute première séance d'équitation, je me souviens, j'ai demandé à sauter. Je montais, j'avais pas d'affaires, j'étais en jogging, j'avais des chaussures de running, j'avais pas de bottes, j'avais rien. J'ai dit ouais, c'est trop bien, est-ce qu'on peut sauter? Alors, on m'a regardé avec des yeux, tu vois, enfin bon, on m'a mis 10 cm, mais je sais pas, tu ressens les choses, t'as envie et c'est quand même assez ouf.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quoi, parce que rétrospectivement, enfin monter, enfin partir sur un parcours d'équitation sans avoir fait d'équitation et au bout de 5-6 mois,
ouais,
ah, franchement
c'est un peu kamikaze, quoi.
Ouais, voilà, franchement c'est un peu, c'est pas inconscient parce qu'en fait t'as quand même un test d'abord avant de partir, enfin tu le fais à l'entraînement et t'as un test pour voir si t'es apte à le faire, mais même ce test là il est un peu un peu biaisé, quoi. C'est-à-dire que je me souviens, ça s'était pas forcément ultra bien passé. Mais on m'avait dit, OK, bon, tu seras capable de faire un parcours. J'ai dit, bon, OK. Et j'avais fait sans faute.
OK. finalement, bah, tu tiens les délais qu'on t'avait fixés, puisque là, moi, j'ai vu que t'avais eu ta première médaille internationale en relais en 2016, c'est ça?
Ouais. L'année des Jeux de Rio.
Ouais.
Championnat du monde à Moscou, et on fait troisième au championnat du monde.
Ok.
On fait troisième derrière les Russes, dont un a pris pour dopage quelques temps après.
Ouais. Mais ça disqualifie pas l'équipe.
Non, il y a jamais eu de. Ah bah finalement c'est vous qui êtes deuxième ou ce genre de choses, tu vois.
Ouais. Mais ça de toute façon c'est un sujet, j'en ai déjà parlé avec Maxime Beaumont qui lui fait du kayak, tu vois, kayak en ligne et en sprint, et ça lui est arrivé plusieurs. Enfin. Un concurrent s'est fait déclasser sur plein de trucs et il me dit bah tu sais t'as pas le chèque, t'as pas les interviews, t'as rien du tout, donc tu reçois juste un courrier au fait vous êtes plus troisième, vous êtes deuxième.
Non, c'est terrible. Après c'est moi c'est pas que je le vis bien parce que je trouve ça quand même bien dégueulasse, mais je sais que c'est pas ça qui change ma carrière.
Ouais,
c'est ça qui me fait que j'avale plus facilement la pilule, c'est que voilà, je sais que on parle de patate moderne. Troisième vice-champion du monde, même si j'avais été champion du monde, bon, c'est pas la même chose, c'est pas le même titre, mais en soi, moi je sais que ça change rien à ma carrière. Ce jour-là, ça change pas.
Ok, ouais.
Mais c'était juste pour le noter quand même.
Non, ça fait toujours plaisir.
Et ouais, première médaille, j'ai 2016, j'ai 24 ans. Ouais, j'ai 24 ans.
Ok.
En senior, hein, du coup, parce que j'en ai eu deux en junior. Dans junior, et ouais, en senior, faut se faire sa place, quoi. C'est pas évident.
Ok.
Il y a une grosse génération. Alors, c'est des mecs de mon âge, globalement. Mais qu'on commençait bien plus tôt que moi. Donc, ouais. Je me retrouve avec un petit handicap que, je sais pas, enfin, ouais. Ce petit handicap-là qui fait qu'il y a une, bah, ils sont solides, hein. Ils sont solides. Et puis, moi, j'ai pas le même background qu'eux. Donc, c'est vraiment pas évident de faire sa place.
Ouais.
Après, il y a d'autres mecs qui prennent leur retraite sportive. Tout de suite, bah, tu gagnes 2-3 places.
Ouais.
Mais pas évident, mais ça me met dedans, quoi. C'est première médaille dans la cour des grands. C'est pas forcément une étape, parce qu'il y en a qui arrivent à la franchir sans passer par là, tu vois, mais c'est en mode, vous m'avez pas envoyé pour rien et je fais la médaille et c'est cool, quoi.
Ok. Tu vas pas à Rio finalement?
Non, pas du tout. Je suis pas dans le collectif, non, comme je t'ai dit, grosse génération.
Ouais.
Avec des mecs
vous
solides.
Êtes nombreux et...
Des mecs solides et je suis pas du tout dedans. Mais je suis pas surpris, tu vois, je suis même pas déçu parce que je sais que je suis pas apte à faire, tu vois.
Ouais.
Je suis pas apte à le faire. Là, je me dis, ok, imaginons, j'ai une autre nationalité, je pars au jeu, bon, je fais pas de médaille.
Ouais.
Enfin, j'y vais vraiment en mode, faites ton mieux. Faites ton mieux, mais t'auras rien à la fin, quoi. T'auras juste participé. Et dans ces moments-là, je me dis, bah, t'es comme je te disais au début, hein. Je pars pas sur une compétition si je sais que j'ai pas les moyens de, de faire une médaille et une performance, tu
vois. Bien sûr, bien sûr.
Donc globalement, pas de déception là-dessus. Puis après, je vous voyais bien, je me souviens du petit fascicule 2016, objectif 2016, Rio, je dis ok, non, vous m'avez mis un peu des paillettes dans les yeux, mais non, en 6 ans, c'est pas que ça n'est pas possible,
ouais,
mais c'est quand même très très compliqué.
Ouais, bah après tu sais très bien que...
Surtout que c'est, les jeux sont en 2016, mais la qualif, elle commence en 2015, tu vois. En 2015, il faut déjà être dans le truc, être parmi les meilleurs Français. Donc ça, on ne te le dit pas. Mais les jeux, en fait, par exemple, les jeux de Paris 2024, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant. Cette année, elle va être ultra charnière parce que cette année, il faut rentrer dans le groupe des meilleurs Français. Parce qu'on est nombreux. On est nombreux. Il y a une grosse densité française. Mais ils ne peuvent pas mettre une pièce sur tous les mecs. Donc, sur le groupe de 7-8 qu'on est, bah, ils vont réduire à 3 ou 4.
Ouais.
Si t'es pas dans les 3 ou 4, c'est terminé, quoi.
Ouais, ouais. Et là, ça s'enchaîne.
Donc, les jeux, c'est maintenant.
Ok. C'est clair. C'est les jeux, c'est maintenant. Bah, du coup, ton objectif, j'imagine, c'est Tokyo.
Paris.
Tu progresses.
Ah oui, non, par contre, c'était dans.
Ouais, si on se remet en 2016.
Oui, oui. Ouais, carrément.
Je vais faire un peu une transition un peu romancée, mais, on est en 2016. Toi, tu continues de progresser. T'as de plus en plus de, enfin, tu gagnes quelques titres, notamment en relais, jusqu'à c'est un matin de décembre 2019, décembre, novembre.
Ça dépend ce que tu veux.
Tu prends ton vélo et t'es en montagne.
Ouais. Alors c'était après le confinement.
C'était après le confinement. Donc 2020,
ouais.
Pardon, excuse-moi.
Ouais, c'est en 2020. Ouais, 2020 après le confinement. Donc à ce moment-là, j'ai déjà quitté l'INSEP.
Ok.
Et c'est pour ça qu'on a une période estivale et je me dis, en fait là, je vais préparer l'hiver. Je vais préparer l'hiver, je vais me faire un peu la caisse et ça va me permettre de faire autre chose. Donc je fais un peu de vélo. Tu vois.
Tu sais déjà que Tokyo est décalé.
Ouais.
Et vous avez
mais
pas
je
fait
sais
forcément...
déjà que Tokyo, en fait, je suis plus dedans. Je suis pas dedans.
Ok.
Je suis pas dans le groupe. Je suis pas dans le groupe qu'ils ont sélectionné. C'était du coup en 2019. Et une année assez charnière pour moi, assez importante même dans ma vie, tu vois. Ah,
et tu es parti de l'INSEP.
Ouais, je suis parti de l'INSEP et à ce moment-là, avant de partir, j'étais même pour moi au top, tu vois. Ouais. Et après, il y a des blessures. Il y a des blessures, frein direct à la performance. Ça peut être un élément déclencheur qui fait que derrière, je quitte l'INSEP. Après, il y a le confinement, Covid et tout. On sort du confinement. Là, je me dis, je vais préparer l'hiver et la partie hivernale qui est difficile. Et tout de suite, je vais faire autre chose. Je vais faire un peu de vélo pour faire du long, pour faire de la caisse, faire de l'aéro sans faire de choc, de course à pied, pour changer, pour varier. Et je rejoins un ami à moi que j'ai rencontré à Font-Romeu, Vincent Jeanne, qui est en équipe de France de short track. Donc, c'est patinage de vitesse.
Ouais.
Et deuxième jour, donc c'est dans les Alpes, à côté d'Annecy, à Annemasse. Et on fait une sortie. Et il reste peut-être 10 bornes, tu vois. On a fait une bonne sortie, très content. Et on est dans une descente. Je prends pas spécialement de risque, tu vois. Je suis pas un fou de vitesse, Mais à un moment donné, il y a un virage en descente et je vois des graviers. Et ces graviers-là, ils me font... Oh! Tu sais, il y a un petit genre, je vais glisser. Tu sais, genre, je vais déraper et je me redresse. Je me redresse et je vais tout droit dans un mur. Je vais tout droit dans un mur et je me casse la jambe.
Tu te souviens du trajet de l'accident jusqu'à l'hôpital?
Je me souviens de avant, je me souviens du choc, je me souviens de l'heure qui a suivi.
Ok.
Et c'était une heure très très compliquée. Ouais. C'est une heure très très compliquée parce qu'au début, c'est la douleur. C'est la douleur insupportable. Enfin, je me redresse. Déjà, juste, je me redresse. Là, j'ai hurlé pendant une heure. Parce que il y a une fracture, il y a une multiple fracture du fémur.
Ouais.
À l'endroit. Donc, le fémur, c'est l'os le plus dur du corps humain. Et je l'ai cassé à l'endroit où il est le plus solide.
Ok.
C'est-à-dire le tiers supérieur au niveau de la hanche, quoi. Et au début, j'ai mon cuissard et je vois une petite bosse. J'ai une petite bosse sur le truc et il y a du sang. Enfin, il y a une petite hémorragie. Et je me dis, ok, j'arrive pas à me relever. et je me suis luxé la hanche. Tu vois, en fait, je me suis luxé mon fémur est sorti de l'articulation. Moi, je m'arrête là-dessus. Bon, je hurle. Mon copain est là, il m'appuie sur l'hémorragie pour arrêter le saignement. Mais je vois pas. En fait, le cuissard n'est pas déchiré, donc je vois pas. Il y a juste une bosse. Et donc là, les squares arrivent progressivement, trop lentement à mes yeux, parce que c'était juste la douleur. C'est, bah, on est sur une 10 sur 10, tu vois. Hein, c'est, on me découpe le cuissard. Et là, je vois le truc. Et je me dis, OK, c'est pas une luxation. Là, je vois que c'est l'os.
Moi, je ris, c'est l'os. Mais...
Et je dis, bah, là, en fait, c'est cassé. Et là, boum. Là, il y a vraiment coupure totale. Parce que je me dis, là, il y a fracture. Là, il y a fracture et tout de suite, c'est ma carrière. Tout de suite, c'est le sport, c'est fini. Les jeux, c'est terminé. Arrête de rêver. Là, ça a été vraiment un moment très, très dur qui m'a fait oublier la douleur pendant un instant. Tu vois, c'est en mode... Bah, c'est fini, quoi. C'est vraiment, c'est fini.
À ce moment-là, tu crois plus?
Ah, j'y crois plus.
T'es par terre dans le camion des pompiers et tu crois
non,
plus?
Non, pas encore. Voilà, ça arrive bien après, malheureusement. Non, et donc du coup, bon, après, ouais, je te la fais courte, il y a les pompiers, il y a le SAMU me soulage enfin de la douleur, enfin, je suis shooté, je suis drogué à mort.
Ouais.
Là, j'ai des flashs, mais je pars à l'hôpital, aux urgences, je me retrouve, je me réveille dans une la salle de soins intensifs, branché de partout, enfin... Et il y a un mec qui arrive, donc le chirurgien, qui m'a opéré d'urgence, parce qu'il y avait urgence, et qui me dit... Dans mes souvenirs, c'est comme ça que ça se passe. Et, il arrive, il se présente vite fait. Et au bout de 30 secondes, il me dit il y a de grandes chances pour que vous ne recourriez plus jamais de votre vie. Mmh. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, dans ma tête, non. C'est pas comme ça que ça va se passer. Parce que même au moment où je me suis réveillé, au moment où j'ai repris conscience, donc t'es là, dans ton lit, hop, tu regardes sous le drap, donc t'as un gros pansement, et tu vois que c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Et en fait, dans ce moment-là, en 5 minutes, j'ai dit « Ok, pas de... enfin, je vais y arriver.
Okay.
Je vais revenir. Je vais revenir parce que je suis pas le premier à qui ça arrive. Il y a des gens qui se battent contre des trucs qui sont encore plus durs. Enfin, des maladies, tu vois. C'est... Moi, c'est mécanique. Mmh. C'est un os. C'est... Je vois pas encore la complexité du truc, mais je me dis « C'est un os. Ça va se ressouder.
Ouais.
Et je vais y arriver. »
Au pire, ils vont mettre du plomb.
Ouais, tu vois. Mais je me dis... Et le mec me dit ça, je lui dis « Mais non. Non, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer, mec. » Et je me referme, tu vois. Je le réponds pas, je le regarde plus, parce que c'est pas ce que j'ai envie d'entendre, tu vois. En plus. Ouais. Mais au final, c'est ça qui me donne le déclic de
bah, tu nies presque ses paroles.
Ouais. Et je me dis non, je vais te faire mentir, mec.
À ce moment-là, t'es au plus bas. Bon, t'as l'air
de
vouloir rebondir hyper vite, mais
ouais, pas tant que ça. Parce que même, on me propose de voir une psy, la psy de l'hôpital.
Ouais.
Et je dis oui, tout de suite. Tu vois, je dis en mode, en fait, je veux anticiper le côté post-traumatique.
Ouais.
Parce qu'à un moment donné, je vais y faire face. À un moment donné, je vais bader de ce qui m'arrive, d'être remis en doute constamment. Et je veux anticiper ça. Donc, je dis, ouais, je veux voir la psy. Et savoir comment je vais devoir faire face à ça, quoi. Donc, tout de suite, je suis dans le processus de je vais revenir, en fait.
Ok, ouais.
Ça va être une question de temps.
C'est quoi ta source de motivation pour revenir à ce moment-là?
Me battre. Juste moi.
Ouais.
Juste. Non, c'est pas comme ça que ça doit se terminer.
Ok.
Ma carrière sportive va arriver à un terme, mais c'est pas de cette manière-là.
Ok.
Ce sera quand j'aurai décidé, parce que pour différentes raisons de moins de performance, plus de plaisir, ok. Là, j'arrêterai. Mais si je m'arrête là-dessus, toute ma vie, ça va être en mode, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Je l'aurais regretté.
Ok.
Je l'aurais vraiment regretté et je me dis non. Enfin, c'est pas comme ça. Je vais revenir, je vais essayer de revenir à un niveau qui sera peut-être moindre ou pas. Et à ce moment-là, je dirais, ok, je suis pas en mesure d'être performant.
Ok.
J'arrêterai. Mais tant que j'ai pas ça, hors de question que je m'arrête là-dessus. Okay. S'arrêter sur une blessure pour un sportif, je pense que c'est le pire. Parce que ouais. c'est pas de ton gré, c'est pas toi qui l'as décidé, tu l'as subi.
Ouais, clairement.
Et moi, je veux pas que ça se termine comme ça. Parce que je sais que je suis quelqu'un qui garde beaucoup de choses du passé, tu vois, beaucoup de rancœur, ce genre de choses, et du mal à. Et j'aurais du mal à vivre avec ça.
Ok. t'y crois, tu t'accroches, il y a un long processus. J'ai l'impression aussi en entendant quelques interviews de toi que tu t'es énormément formé sur la cicatrisation, la réathlétisation. Donc, tu maîtrises bien le sujet de ta blessure et que tu la connais par cœur. Ça, j'ai l'impression que ça, c'est un élément qui t'a aidé. Et au bout d'un an, tu t'intéresses, on va dire, plus fortement à la prépa mentale. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'y mettre?
Alors du coup, moi, il m'a fallu 6 mois, de plus de 6 mois pour cicatriser.
Ok.
Voire même plus.
T'as quoi exactement d'ailleurs, pour préciser peut-être aux auditeurs, du coup, t'as fracture du fémur.
Ouais, multiple fracture, en fait, c'est des miettes. Ouais. J'ai des miettes et en fait, la complexité de cette fracture-là, c'est qu'il y a beaucoup d'insertions musculaires qui se font ici. Donc il y a beaucoup de muscles qui sont endommagés. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais pété au milieu. Bon, en imaginant qu'il n'y ait pas de rupture de l'artère qui fait morale et tout, hein. Juste, on pète au milieu. En 3-4 mois, parce que c'est le temps de cicatrisation.
Tu peux courir.
Tu t'es debout, tu peux marcher, la course, sans doute pas, mais.
Ok.
C'est rapide. Ça peut vraiment, parce que c'est un os. Donc une fois que c'est cicatrisé, ça bouge pas, c'est même encore plus solide. Tu vois, dès que tu touches au ligament, quand tu touches au tendon, tu sais, c'est des fibres qui sont tout le temps mouvantes.
Cartilage
aussi. Qui
sont
tout le temps en train d'être utilisées, sollicitées. Et si c'est pas bien cicatrisé, ça repète.
Ouais.
Un os. Là, il y a une tige de fer dedans. Je peux te dire que ça bougera plus. Mais, en fait, il y a une reprise. Je me suis fait une deuxième opération en moins de 10 jours. Et là, ça, le corps, il aime pas beaucoup. Donc rien que ça m'a fait prendre 3 mois de plus.
Et elle servait à quoi, cette reprise?
Bah, la première opération, c'était une opération d'urgence et elle était pas optimale.
D'accord.
Si j'avais pas été sportif de haut niveau, elle aurait très bien fait l'affaire. Mais moi, elle m'aurait mis, j'aurais eu trop de séquelles.
Ok.
Donc j'ai préféré qu'on refasse le truc, quoi.
Ok.
Donc t'imagines qu'on m'avait mis une barre de fer en une semaine, on me rouvre de nouveau, on me retire un truc qui était dans un os qui était cassé pour m'en remettre une. Donc j'ai pris cher.
Ouais.
Là, j'ai pris très cher. Mais du coup, il y a eu ça. Donc dès que j'étais en mesure à peu près de le faire. Donc c'était au bout de 4 mois, je suis parti au CERS à Cabreton.
Ouais.
Donc là, grosse sollicitation, j'ai repris du volume musculaire, j'ai repris de la force. Mais c'est surtout sur l'articulation que c'était compliqué. Après, il y a eu une pause, je suis reparti au CERS quelques temps après, mais là c'était plus dans la réathlétisation. Genre j'étais sur le début où je reprends un peu la course.
Ouais.
Donc ça c'était quand même ouf. De pouvoir reprendre la course, même si je boitais, même si, enfin, je reprenais, quoi. Donc, c'était, émotionnellement, c'était très, très fort, déjà. Et, pendant ce temps-là, en cours de route, je me dis, donc, je crois encore plus en plus que je veux revenir.
Ouais.
J'y crois de plus en plus fort. Et je me dis, là, j'ai plus le choix, par contre. J'ai plus de marge d'erreur. Donc, c'est-à-dire que tout ce que je peux mettre en place, pour la performance, il faut que je le fasse parce que j'ai trop de retard là, avec ma blessure. Donc je commence à m'intéresser vraiment à la nutrition, à la diététique, faire attention, et à la préparation mentale.
Ouais.
Et donc là, je découvre sur les réseaux, je crois, une pub de une promotion de l'académie de la haute performance de Pierre. Et en fait, c'est son discours qui a fait que ça m'a plu. Parce que il y a beaucoup de sportifs un peu comme moi qui sont dans le j'aurais pu. J'avais les aptitudes pour y réussir, mais je l'ai pas fait. Et c'est quoi le blocage? Et souvent c'est plus par rapport à la personnalité de l'athlète. Et donc je l'ai contacté. Et en fait c'est sa manière de faire qui pour moi est pas vraiment de la prépa mentale en fait.
Ouais.
C'est vrai que c'est plus facile de mettre cette étiquette dessus, mais c'est pas un truc. C'est plus avoir un truc qui te permet de faire un déclic sur ta personnalité et vraiment accepter qui tu es. Et c'est plutôt ça qui m'a dit. En fait, ça a été révélateur parce que cette blessure m'a permis de me découvrir.
Ouais.
De moi-même.
Qu'est-ce que t'as appris sur toi?
Que j'étais un hypersensible. La fameuse étiquette, nouveau appellation.
Plutôt émotionnel ou plutôt.
Les deux.
Sensoriel. Okay.
Ouais, les deux. Vraiment. Pas exacerbé, tu vois, parce qu'il y a quand même différents niveaux, mais je suis un hypersensible, tu vois, je suis quelqu'un de très introverti, même si ça se voit pas tout le temps, parce que à un moment donné, en fait, pendant des années, tu te mets un masque.
Bien sûr.
Pour correspondre à un groupe, pour correspondre à une société qui veut globalement que l'être soit comme ça. Et donc, en fait, tu te caches derrière... Mais tu te caches sans le savoir, en fait.
Ouais.
Et donc, ça explique après tellement de choses. Par rapport à des réactions que j'ai eues dans mes groupes, par rapport à des personnes, par rapport à mon côté, voir m'isoler, être seul, tout ça. Et tout ça, bah, c'est un peu grâce à lui, tu vois. Enfin, c'est un peu grâce à ça. Et c'est cette blessure qui est révélateur de tout ça.
Ouais.
Et quoi qu'il arrive, c'est, cette blessure, elle est bienfaiteuse.
Ouais.
Et elle est incroyable pour ça. Parce que ça m'a permis de me dire, OK, bah, en fait, je suis comme ça. Et je vais m'assumer et je vais dire, et je vais arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Mm. Et je vais juste être moi-même. Donc, ça, ça a fait vraiment beaucoup de bien, quoi.
Vous avez bossé sur quoi en particulier? Là, ce que je comprends, c'est que il t'a ouvert les portes pour encore plus apprendre à te connaître et comprendre tes émotions et qui tu es, et comment tu réagis. Mais est-ce qu'il y a des points particuliers sur lesquels vous avez bossé qui ont aussi été très bénéfiques pour toi?
Bah, c'est un peu, en plus, c'est ce que j'ai regardé dans l'interview de Pierre. Il le dit, c'est vraiment le côté. En fait, si je dis que je veux être champion olympique, ça va être perçu comme de l'arrogance.
Ouais.
Et donc, il y a un moment donné, tu veux pas être arrogant. Mmh. Parce que c'est quelque chose que tu perçois comme quelque chose de négatif.
Ah,
t'aimes
ouais.
pas l'arrogance. Moi, c'est la première chose que je lui ai dit. Moi, j'aime pas les mecs arrogants. Et je me suis dit, en fait, le fait de pas vouloir être arrogant, donc de pas dire que je veux être champion olympique, bah, en fait, à un moment donné, t'es plus dans le processus de le vouloir l'être.
Tu te mens à toi-même, quoi.
Et tu te dis, en fait, si j'assume plus de le dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu commences à prendre un peu la tangente, quoi, en mode, bah non, en fait, t'as plus l'objectif. Parce que tu le regardes plus comme ça, tu le regardes en mode, ah non, attends, faut pas que je sois arrogant. Donc en fait, tu te, ouais, c'est. Et le fait de me dire, bah en fait, je vais dire que je vais être champion olympique. Si tu prends ça comme de l'arrogance, bah c'est un fait. T'as le droit de penser comme ça. Maintenant, il y en a qui vont se dire, waouh, c'est un mec qui a de l'ambition.
Ouais.
En France, bon, c'est pas vraiment perçu comme ça, tu vois. Mais dans d'autres pays, c'est en mode ouais, c'est un mec ambitieux.
Ouais.
C'est un mec ambitieux. Ça n'a rien à voir avec l'arrogance. Ça dépend de la manière dont tu le dis.
Bien sûr, toujours. Ouais.
Mais
ouais, on a un vrai problème avec la réussite en France, hein, c'est sûr. On ne sait pas comment il faut l'annoncer. On n'aime ouais. pas comment c'est.
Ouais, c'est très tabou.
Comment c'est communiqué.
C'est très tabou. Ouais. Mais,
on veut, tiens, en France, on veut des champions, mais qui soient riches, mais pas trop. Qui soient ambitieux, mais pas trop. Ouais. Qui soient humbles. Qui soient super respectueux du maillot. Tu vois, on n'accepte pas d'avoir des champions à n'importe quel prix.
Ouais.
Tu vois. Alors que je pense que un champion, il doit avoir. Enfin, déjà, c'est un être humain, donc il a des vices. Il a des traits de caractère qui peuvent être interprétés positivement ou négativement selon ton prisme à toi de français.
Ah non, mais c'est clair, non,
on n'accepte pas les défauts, tu vois. On veut des champions parfaits, tu vois. Et c'est pour ça qu'on adule des mecs peut-être comme un Roger Federer parce que il est hyper lisse, tu vois. Surtout, alors que non, un champion c'est un être humain qu'il faut prendre en entier, quoi. Et qu'en fait, peut-être que ses principales défauts, ses principales traumas, ses principales, sont sa vraie force, tu vois.
Mmh. Non, c'est clair. Mmh. Et pour un exemple, c'est moi qui étais à l'INSEP pendant 7 ans. C'est-à-dire que quand je regarde les jeux, globalement, je connais 40 à 50% des personnes qui y sont.
Ouais.
Tu vois? Et il y a des gens, ils font des médailles. Et tout le monde les voit, les adultes, et c'est juste incroyable. T'es une médaille olympique, ok. Et moi, dans ma tête, c'est en mode, ouais, mais je sais comment elle est vraiment, cette personne, tu vois. Elle est en bien ou en mal. Et je me dis, là, les gens, ils sont en train d'aduler un mec. C'est la pire merde possible, tu vois, dans la vraie vie.
Par exemple, ouais, c'est possible.
Mais au final, enfin, on s'en fout. C'est pas très grave. Mais du coup, tout de suite, tu vois que le bon côté. Et à l'inverse, t'as des mecs qui se plantent au jeu et tu dis putain, ce mec-là, il mérite tellement. Mais de mon point de vue, en mode bah justement, c'est un travailleur, c'est un besogneux, c'est le mec qui travaille dans l'ombre, il est là, machin, il revient de blessure, machin truc. Tu dis putain, c'est ce mec-là qui aurait dû gagner.
Ouais.
Mais au final, la personnalité change. Enfin, on s'en fout quoi, d'une certaine manière.
Bien sûr.
Mais ouais, c'est assez particulier quand t'es dans le monde du haut niveau et que tu vois les personnes.
Ouais. Et ça t'a pas, justement, le travail avec Pierre, c'est pas ce qui t'a aidé, justement, à t'assumer. Tu vois, dans le sens où, Bah effectivement, ok, bah lui, peut-être que il parle comme un con quand les caméras sont pas là et en dehors de la compète, mais au final, bah peut-être que toi t'as pas envie d'être comme ça et tu peux être qui tu veux en fait finalement pour du temps que ça te permet de gagner quoi.
Ouais c'est ça. Ouais globalement c'est enfin moi là j'ai 30 ans, mais en fait je pense qu'il faut beaucoup de temps pour vraiment se connaître.
Ouais.
Alors que putain j'avais l'impression de me connaître. Mais je pense que il y a toujours un petit truc, hein, une petite parcelle à découvrir.
Ouais.
Et c'est cool. C'est cool d'une certaine manière de pas vraiment de pouvoir toujours gratter un peu de vraiment savoir qui on est. Mais globalement, quand tu sais ce qui tu es, tu peux savoir vraiment ce que tu veux.
Ouais.
Et je pense que c'est plus facile d'avancer, quoi.
Ouais, ouais, complètement, complètement. Un an et demi, quasiment jour pour jour après cette blessure. À peu de choses près.
Ouais, ouais, ouais. Donc blessure, accident 18 juillet 2020 et en décembre 17 décembre 2021 champion de France.
Ouais, tu reviens. Tu peux raconter un peu cette course. Et alors il nous reste pas beaucoup de temps, il reste une dizaine de minutes.
Allez, on va essayer de faire rapidement. Bah j'y vais sans pression quoi. J'y vais sans pression parce que.
T'y vas juste pour te faire plaisir.
J'y vais pour me faire plaisir de fou. Je me dis en fait c'est la compétition, c'est ma première compétition depuis 2 ans parce qu'il y a le Covid et tout. On va voir ce que je donne quoi. C'est un peu la compétition qui me dit bon est-ce que t'as les armes pour revenir.
Mais est-ce qu'au fond de toi tu meurs d'envie de revenir?
Ah ouais.
Ouais.
Bah ouais.
Donc il y a la partie arme qui dit on verra et la partie
non mais c'est
qui...
en mode c'est si j'y arrive pas c'est pas grave et si j'y arrive c'est bien aussi. Tu vois c'est ce côté où en fait il y a du positif partout. Tu vois quand je te dis j'ai découvert plein de trucs grâce à la blessure, grâce à mon accident. Tu sais, je me posais la question, est-ce que si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Et bah, peut-être que, en vrai, peut-être que oui. De par tout ce que ça m'a apporté.
Ouais.
Parce que j'aurais pas évolué, peut-être, si j'avais pas eu cet accident-là. Et donc, j'y vais, bah, un peu sans pression, mais avec l'idée d'être performant, tu vois, enfin.
Ouais, ouais.
Bon, en vrai, je viens pour gagner, tu vois. J'y vais pour gagner parce que c'est au fond de moi, c'est, Et donc il y a les qualifications le samedi, ça se passe bien. Globalement, ça se passe bien. J'ai une très bonne escalade. Enfin, oui, ça se passe bien. Donc je me qualifie le lendemain. Donc ça commence par l'équitation et là je me dis waouh, ça fait 2 ans que j'ai pas fait un parcours quoi.
Ouais.
Je suis remonté un tout petit peu à cheval de mon côté.
C'est pas flippant d'ailleurs pour la hanche quand t'as eu une grosse blessure.
J'ai passé le cap.
Ouais.
J'ai passé le cap à l'entraînement, mais j'étais. Bah, de nouveau, en fait, l'équitation, c'est une épreuve assez particulière. Hein. C'est tu passes tout seul, tout le monde te regarde, tu vois. C'est une épreuve assez particulière. Et je fais sans faute, il me semble. Oui, je crois que c'est sans faute, peut-être une barre, mais. Et donc je me place pour la finale et arrive la dernière épreuve du combiné. Et bon, pareil, ça se passe bien. Je dois partir 4 ou 5e, un truc comme ça. Et de base, je suis plutôt bon coureur. Et j'ai réussi à ressortir une course, tu vois.
Ouais.
À ressortir une course. Je me souviens, dernier tir. Donc, on part sur la dernière section, dernière phase de course. Il y a 600 mètres. Je sors deuxième du pas de tir. J'ai un autre Français qui sort en même temps que moi, quasiment. Donc, on est 2 et 3 coude à coude. Et là, je me dis, je bluffe. Et je pars à balle. En mode, je pars tout de suite.
Ouais.
Pour essayer de casser le truc. Et donc, il tient pas. Il me laisse partir. Ou il ne peut pas me suivre, j'en sais rien. Et en fait, le fait d'avoir accéléré, ça m'a fait remonter sur le premier. Ouais. Et je me dis, bon, bah, maintenant, je vais le chercher, tu vois. Et là, alors que j'ai 3 mois d'entraînement dans les jambes. J'ai 2 mois de course à pied dans les jambes. Parce que, entre temps, je me suis fait réopérer pour enlever un peu de matériel dans ma jambe.
On t'a retiré une plaque de fer.
Pas tout, non, juste du cerclage. Juste vraiment du tout petit matériel, j'ai encore.
Ah, mais quand même.
Mais du coup, il y a encore une partie où je suis trois semaines sans rien faire, quoi.
Ouais.
Le temps que ça cicatrise, de pouvoir retourner dans l'eau et tout. Donc j'ai rien dans les jambes. J'ai pas d'entraînement, j'ai pas de volume, j'ai que dalle. Et je gagne.
C'est quoi ta réaction après la ligne d'arrivée?
Je gueule. Comme un porc. Et 3 mètres après, je m'effondre.
En larmes.
Émotionnellement en larmes, je suis effondré. Parce que tout de suite, t'as boum, flashback, accident, hôpital, alité, douleur, doute, tout ça qui... Pouf. Parce que du coup, j'ai réussi. Je suis revenu, mes objectifs ou mes rêves redeviennent objectifs.
Ouais.
Je suis de retour dans le game, quoi. Et c'est en mode... Enfin, c'est un truc que je devais me prouver à moi-même et même prouver un peu aux autres, tu vois, en mode je suis pas mort.
Ouais.
Je suis pas mort, je suis de retour.
C'est important d'avoir de l'orgueil à ce moment-là, parce que je pense que on peut avoir tendance à s'enterrer. Tu vois, notamment dans un sport où, comme tu l'as dit, il y a un gros groupe, vous êtes 7-8, vous êtes ultra performant. Il y en a que 3 ou 4 à la fin qui...
Ils peuvent prétendre aux jeux, parce que c'est 2 maximum. Moi, je dois...
Exactement, donc mine de rien, même s'il y a un peu de collectif et que c'est important que le groupe vive bien...
Certains peuvent, individuel, hein.
Ça reste un sport individuel et certains peuvent célébrer, tu vois, la non qualification de l'un ou de l'autre. C'est important d'avoir de l'orgueil, tu vois. Et
ouais.
D'être,
Oui, parce que pour être tout à fait honnête, je pense que beaucoup de gens après le fait que j'ai quitté l'INSEP m'avaient enterré.
Ouais.
Rien que le fait d'avoir quitté la structure, on m'avait dit ah c'est bon, lui il prend sa retraite. Donc il y avait déjà ça. Il y avait déjà ça. Après il y a la blessure qui est un an après quand même.
Ouais.
Alors là, c'est bon, c'est même pas il prend sa retraite, c'est lui, on n'en entend plus jamais parler. Et je le sais, hein.
Ouais.
Je sais déjà qui est pensé ça, tu vois. Et revenir et les faire mentir. Ah, vous aviez pas prévu, hein. Vous aviez pas prévu ça. Hein.
C'est une source de motivation supplémentaire.
Ah ouais, ouais. Franchement, en fait, moi, c'est un peu mon défaut parce que je sais que c'est pas bien.
Ouais.
Mais c'est ce côté rancune.
Mais en côté, faut l'accepter, quoi.
Je me venge pas.
Ouais.
Je suis très rancunier, tu vois.
T'oublies jamais, quoi.
Ah, j'oublie rien. Ouais. J'oublie rien. Et quand je vois les mecs avec des sourires.
Ouais.
Ouais, il veut me serrer la main. Ah, allez. Je sais très bien ce qu'il y a. Alors, moi, je suis poli, hein.
Bien sûr.
Mais j'oublie pas, moi. Ouais, j'oublie rien.
Mais tu vois, c'est. Encore une fois, c'est pas un défaut, c'est un trait de caractère, quoi. Tu vois.
Oui, voilà. Oui,
c'est juste, on le voit. Moi, je parle beaucoup. Enfin, tu vois, c'est juste un trait de caractère.
Ouais. Voilà. Non, mais t'as raison.
Et pour certains, c'est une force de ouf d'être rancunier parce que, comme t'oublies rien, tu fais pas deux fois la même erreur Faire pas deux fois la même erreur, c'est juste mieux formuler la rancune, tu vois.
Non, c'est clair. C'est clair, mais c'est juste, faut pas que la motivation, elle soit. Tu vois, si je le faisais vraiment pour moi-même, tu vois. T'as une bonne motivation, et je pense qu'il y a des motivations qui sont pas forcément ultra saines.
Ouais.
C'est justement ça que je me dis, bah pareil, c'est ma perception. Mais c'est vrai que la rancune, parfois, elle peut amener du mauvais côté, tu vois.
Ouais.
C'est juste ça.
Mais une fois que tu le sais, que tu la connais.
Oui, voilà, c'est ça.
Ok.
Pour mieux l'appréhender. Mais ouais, back in the game.
Mais en tout cas, franchement, félicitations, parce que c'est un modèle, je pense, pour plein de gens. Tu vois, on entend souvent des histoires à la télé. Un tel est revenu après une énorme blessure. Tu vois, j'ai aussi l'occasion d'en interviewer certains. Tu vois, notamment Samir Ait Said ou d'autres. Désolé, j'ai cru en tête parce qu'effectivement, c'est lui qui est venu. Mais faut une force supplémentaire, quoi. Et je trouve cette force supplémentaire, c'est aussi d'accepter ses côtés sombres, tu vois.
Ouais.
Et trouver sa raison d'être. Et je pense que.
Et ce qui est assez marrant, c'est qu'au final, j'ai pas du tout l'impression d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Tu vois, c'est juste, j'ai eu envie. Pour moi, c'était naturel. C'était naturel. Je veux dire, j'ai envie de revenir.
Ok.
Et ça s'est fait progressivement. En fait, c'était très très long. C'est un an. C'est super long, un an. Ou pas, j'en sais rien. Mais c'est. Tous les jours, t'as des doutes. Tous les jours, je me dis, putain, mais là, je suis peut-être en train de faire n'importe quoi. Tous les jours. Et puis, dans la seconde, tu fais, mais non, bien sûr que non, que c'est pas n'importe quoi, bien sûr que je fais le bon truc. Mais tous les jours, tu te poses 15 fois la question.
Ouais.
Et 15 fois, si t'as pas la bonne réponse, enfin, du moins, cette réponse-là, tu peux très bien dire, ouais, c'est bon, j'arrête.
Ok.
C'est vrai que c'est vraiment avec du recul. Je pense que j'en suis même pas encore là de me dire, je suis revenu de ça, quoi.
Ouais.
Je suis revenu de ça. Pour l'instant, je l'ai pas parce que pour l'instant, c'est juste, ça fait partie de ce que j'avais prévu de faire. Donc, je suis pas déçu, je suis pas content. Enfin, je suis juste, c'est normal.
C'est ouf. Il nous reste 3 minutes parce qu'après, je crois qu'on va se faire chasser de la salle. Il y a une question que je voulais absolument te poser, c'est si demain, imaginons ton meilleur pote dans le sport a une blessure grave. Et tu dois lui donner un gros conseil pour bien se réathlétiser et revenir au plus vite, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Moi, j'ai l'impression que je vais avoir un peu le truc, enfin le côté de médecin, tu vois, mais genre prends ton temps, c'est prendre son temps. C'est-à-dire que moi, quand je me blesse, je me dis ça y est, j'ai plus de marge. J'ai plus de marge, mais c'est-à-dire que j'ai le temps, mais je peux plus me permettre d'en perdre.
Ok. Plus droit à l'erreur.
J'ai plus droit à l'erreur. J'ai plus droit. Donc c'est juste prends ton temps, ça va se faire. Si tu grilles les étapes, c'est mort.
Ouais.
Okay. C'est mort. Ça, c'est juste que ça va repéter à un moment donné. Tu vas créer d'autres problèmes. Alors que si tu prends le temps de bien structurer les choses, de prendre ton temps, de faire les fondaisons avant de bâtir quoi que ce soit, ouais, y a aucun problème.
Et si avec le temps tu peux y croire et c'est comme ça que ça continue.
Ouais, et puis par son temps et tout en continuant d'y croire d'une certaine manière. Mais ça permet tellement de choses, tu vois. Enfin, il y a du bienfait, mais dans tout ce qui est néfaste et dans tout ce qui est mauvais, il y a un bienfait incroyable qu'on veut pas voir parce qu'on se dit là ce que je vis c'est pas bien. Mais comme je te dis, moi j'ai vécu un truc qui est au final très traumatisant physiquement en tout cas. Et je me dis putain, mais ça m'a permis de rencontrer des gens qui m'ont apporté énormément de choses. Ça m'a permis de me découvrir. Ça m'a permis à un moment donné de faire attention à des trucs que je faisais pas attention, de me rapprocher de certaines personnes. Enfin, et tout ça, comme je te dis, ça se trouve je l'aurais jamais fait si j'avais continué d'être ultra sain, enfin sans accident. Mais au final, j'aurais peut-être rien fait quoi.
Ouais, mais c'est un des traits de caractère que je retrouve chez les champions qui justement arrivent à revenir d'une grosse blessure, c'est de voir les bons côtés en fait, de voir l'opportunité que c'est aussi, c'est humainement quoi.
Et même dans les petits bobos, tu vois, enfin quand il y a des gens qui se blessent, je sais pas, en penta c'est facile parce qu'il y a vraiment des 5 disciplines, mais enfin j'ai ma petite sœur qui joue en élite en volleyball et actuellement elle a mal au doigt, tu vois, elle a un petit arrachement osseux, donc c'est pas anodin, tu vois.
En volley c'est chiant.
Mais... Ouais, surtout quand t'es passeuse. Mais je me dis, et ça c'est une opportunité, hein.
Ouais.
Tu vas pouvoir travailler tes déplacements, tu vas travailler ton cardio, tu vas travailler du gainage, tu vas travailler tous les petits trucs qui font qu'à un moment donné tu prends peut-être pas le temps de le faire. Putain, mais tu vas revenir. Ton dos il va être bien, mais tu vas avoir des cannes, tu vas sauter plus haut, tu vas tenir plus longtemps les matchs, tu vas. Et après, c'est de la technique, c'est de la stratégie, de la vision de jeu, mais ça, tu l'as pas perdu. Tout ce que tu as gagné, tout ce que ça va t'apporter, ça va être incroyable.
Ouais.
Et moi, c'est surtout ça que je vois maintenant. Dans les petits moments chiants, je me dis, OK, ça, c'est ultra chiant, j'aime pas, qu'est-ce que ça m'apporte? Et là, tout de suite, tu fais, OK, bon, ça va. C'est chiant, mais ça peut peut-être m'apporter énormément.
Bah, on retrouve un peu de la méthode de Pierre, de la dépolarisation. La toute dernière question que je pose pour clôturer ces interviews, c'est comme un passage de flambeau, mais c'est plutôt un passage de micro.
Okay.
C'est qui est-ce que tu me recommandes, quel athlète tu me recommandes d'aller interviewer? Ça peut être dans du pentathlon, un homme, une femme, ça peut être dans un autre sport, ça peut être quelqu'un qui a eu une grosse blessure ou un gros trauma, peu importe, mais qu'est-ce que t'aimerais bien écouter un peu sur ce format-là pour connaître son histoire
En vrai, enfin, je sais pas si c'est vraiment ce qui pourrait t'intéresser, mais je pense que c'est quelque chose que les gens font, que les sportifs peuvent, la majorité, faire face. C'est mon meilleur ami, Benjamin Ariot, qui était coureur de 800 mètres, qui était à l'INSEP, qui s'entraînait avec Pierre-Ambroise Boss et entraîné par Bruno Gagère. Et c'est un mec qui a arrêté de prendre du plaisir, arrêté d'être performant, qui a pris la tangente, qui a pris la voie professionnelle, tu vois. Ça s'est fait naturellement. Et je pense que des fois, c'est un peu tabou d'arrêter sa carrière.
Ouais.
Tu vois, on attend quelque chose de violent. Alors que non, t'entends.
Lui, il l'a préparé, la
mienne. Lui, ça s'est fait un peu naturellement. Et puis, c'est en mode, je me souviens, il me l'a dit, un jour, je suis parti en footing. J'ai fait 5 minutes, je me suis arrêté, je fais, putain, j'ai plus envie.
Ouais.
Et là. Et ça s'est arrêté comme ça. Après, il a fait d'autres courses pour du plaisir, tu vois, mais. Et c'est une perception d'une manière d'arrêter sa carrière.
Ouais.
Et je sais pas si ça peut t'intéresser, parce que ça fait un moment qu'il a arrêté maintenant, mais. Je sais pas, je trouve ça très lucide en fait.
Ouais.
Je trouve ça très lucide, très sain de dire ok, bah non, en fait, je crois que j'ai plus envie de me faire mal. Pourquoi me mentir moi-même si je prends plus de plaisir, tu vois?
Ouais, clairement. Ouais.
Et passer à autre chose. Je passe à autre chose.
Bah écoute, je prends la reco, ça pourrait m'intéresser. Faut que je trouve un sponsor dans le thème ou
en
quelque
off,
chose.
En off, j'essaie de t'en dire d'autres.
Vas-y, ça marche. Bah écoute, merci infiniment, Alex. J'ai passé un super moment. J'ai pris beaucoup de plaisir, tu vois, à découvrir ton univers et réentendre ton histoire aussi, tes propres mots.
Avec plaisir.
Et bah écoute, je crois que cette chaise est en bois.
Très certainement.
Je touche du bois pour la suite et je sais que la semaine prochaine il y a les championnats de France.
Ah exactement. Ouais.
Donc à l'INSEP, je sais pas si c'est ouvert au public, mais
très certainement faut-il s'inscrire.
D'accord. Mais
parce
ça peut.
Parce qu'il faut rentrer dans le portique de sécurité, tout ça, c'est l'INSEP quoi.
Ouais.
Enfin c'est un centre. C'est une institution, donc on peut pas rentrer comme dans un moulin. Donc
Je confirme, c'est militaire. Si vous voulez filmer, c'est mission impossible. Ah ouais. voilà, bon, en tout cas, je touche du bois pour la suite et j'espère que tu vas écrire cette histoire qui a l'air déjà bien écrite dans un fond de ta mémoire et qui est prête à être mise sur papier, comme on dit.
Bah, merci à toi pour l'invitation.
Salut, à bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao !